France Musique.
Bonjour. Après Wagner, deuxième chapitre. Après Pelléas, pourquoi Elektra? Pelléas, 1902. Pelléas, c'est le moment où Debussy se débarrasse de Richard Wagner. Quand Richard Strauss écrit Elektra, 1906-1908, il s'est déjà débarrassé très très fortement de Richard Wagner. Guntram, 1887-93, Feuersnote, 1901, et puis il y a même cette merveille d'art nouveau qui s'appelle Salomé avec Wilde en 1905. Et puis comme tous les Allemands, il a l'envie de voyager au sud. Richard Wagner, je vous le rappelle, est mort au sud et il a eu beaucoup de passion pour l'Italie. En particulier, il disait qu'il regrettait d'avoir mis Bayreuth en Allemagne du Sud, mais pas en Italie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'Italie avant la Grèce, puisque Elektra, c'est grec, enfin non, c'est allemand, mais c'est grec. L'Italie, il voyage, Richard Strauss, en 1886, Bologne, Naples, Sorrente, Capri, House Italienne, deuxième volet, les ruines de Rome.
Thank you.
House Italian, opus 16, retour de voyage. Le touriste a emporté des souvenirs pour en faire une œuvre. Il s'agit de Richard Strauss, bien entendu. Et c'est en 86 qu'il a visité l'Italie. Ici, c'est les ruines de Rome. Alors, c'est un jeune homme qui a un métier formidable, qu'il a appris chez Mendelssohn, chez Berlioz et chez Liszt, principalement. Mais franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Pour ce qui est des fouets et des chats, non, c'est des chiens dans Electra qu'il y a. Eh bien, ça va venir plus tard. Donc, 1886, voyage en Italie. 1892, le grand voyage en Grèce, en Sicile et en Égypte. Et donc, le décor est campé pour cette première rencontre avec Hugo von Hofmannsthal en 1900 à Paris. Hofmannsthal, c'est à peu près ce que la Vienne cosmopolite de ce début de XXe siècle a de plus riche, de plus talentueux. Ils ont en commun, Strauss et Hofmannsthal, le goût pour l'Antiquité et aussi pour l'époque baroque. Hofmannsthal va être l'homme de la vie, en termes de livret, de Richard Strauss. Et je pense que Electra est le coup de maître. C'est le livret certainement le plus efficace de Strauss, même si on peut préférer, pour la complexité, le livret de la femme sans ombre. Mais c'est tout à fait autre chose. Donc, le décor est planté pour Electra. C'est un très curieux opéra, au fond. Les hommes n'apparaissent pas du tout pendant la première partie de l'œuvre. 1h40 d'un seul bloc, pas d'entracte. La mode est à ce moment-là aux pièces d'un seul tenant. Il y a le Barbe Bleue de Béla Bartok. Il y a aussi les trois opéras du triptyque de Puccini. Et donc Erwartung, dont on reparlera ici même au mois de décembre, dans cette descendance de Richard Wagner. Alors ce très curieux opéra, trois femmes, la mère, Clytemnestre, qui est un monstre, un monstre qu'on va entendre attifer de manière somptueuse. Les didascalies de Strauss sont extraordinaires, et d'Hofmannsthal. Et puis, les deux filles. Il y en a une qui représente un peu le bon sens, Chrysothémis, et l'autre, elle est folle, raide, folle, dingue. Alors, tous les commentateurs disent qu'Electra est hystérique. Alors, évidemment, ça nous renvoie au docteur Freud, qui a publié il y a peu de temps sa Traumdeutung, Interprétation des rêves. C'est le sujet, au fond, d'Electra. Elles n'arrêtent pas de rêver. Est-ce que tu rêves encore? J'ai rêvé cette nuit. Est-ce que tu as rêvé de moi? Et d'ailleurs, à un moment donné, Electra dit à Clytemnestre, tu parles comme un médecin. Au fond, il y a l'obsession du rêve qui existe dans toutes les civilisations depuis les Babyloniens, l'Égypte, l'Ancien Testament, et j'en passe. Et peut-être qu'Hofmannsthal a lu Freud, ça n'est pas tout à fait évident. En tout cas, Strauss, lui, ça n'intéressait pas du tout ces choses-là. Ce qui l'intéressait, c'est de faire un opéra avec des personnages absolument vivants. Donc, trois femmes et puis deux hommes. Un qu'on n'attendait plus, mais c'est formidable, il arrive, le frère, et puis un troisième à qui on va couper le kiki, parce que c'est un affreux salaud, Égiste, c'est le mari de Clytemnestre. On ne sait pas tout de suite qu'on va le tuer, mais on va le tuer, et c'est très beau la mort d'Égiste. Je ne sais pas si on pourra l'entendre, mais en tout cas c'est extrêmement beau. Et puis, comme toujours, dans ce mélange d'opéra bouffe et d'opéra seria qu'est Electra, des domestiques, beaucoup de domestiques. Des domestiques tout au début, c'est ce qu'on va entendre maintenant, puis des domestiques avant l'arrivée de Oreste. Donc un opéra extraordinairement bien construit. Richard Strauss ne voulait pas qu'on mette une autre œuvre à côté de son Electra. Ça fait une soirée, 1h40. À vrai dire, les chanteurs, l'orchestre et le chef sont épuisés quand ils sont passés après 7h40. Mais je vous propose d'entendre maintenant le prologue. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de prélude, ça commence très brutalement et vous allez entendre avant le grand accord qui signe un certain nombre de personnages, il n'y a plus de leitmotiv, c'est beaucoup plus ramassé, eh bien il y a un petit groupe de deux doubles croches, c'est les mêmes qu'on entend tout à fait à la fin, mais ça passe si vite, c'est pour vous dire que Strauss est un artisan absolument hors pair. Qu'est-ce qu'elles disent, toutes ces femmes de ménage et toutes ces servantes avec la dame qui les surveille? Elles disent qui est Electra, et c'est une vision extrêmement hystérique d'Electra. Elle raconte, elle nous parle d'un personnage qu'on va voir après. C'est tout à fait original comme manière de faire du théâtre musical.
Die Stunde, wo sie um den Vater heult, dass er den Wind erscheinen. Oh,
Discussion domestique, donc, pour ce début d'Electra, les servantes qui ont vu passer Electra comme une furie, comme un chat sauvage. Je vous disais bien qu'il y avait des chats dans Electra. Il y a aussi des chiens, ça viendra plus tard. Et elles décrivent cette personne, cette Electra, comme la fille de la reine. Comment la reine peut-elle le supporter qu'on la traite comme ça? Elle est battue par son beau-père, Égiste, et puis les questions de sang. Mais c'est bien le sujet. Ce qui est extraordinaire dans cette version dirigée par Sinopoli Giuseppe avec les Wiener Philharmoniker, les dames qui chantent sont Annette Jans, Gabrielle Sima, Elisabeth Wilke, Anne Schwanewilms, qui a fait une belle carrière depuis comme grand soprano, c'est une belle maréchale, Katerina Beranova, et puis il y a la surveillante Helga Termer. Alors, ce qu'on apprend, au fond, c'est que c'est une folle furieuse et qui est indomptable. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle chante, quand elle arrive là, maintenant, eh bien, c'est pas du tout ça. C'est une petite fille perdue qui a perdu son père. Et Léonie Rizanek, qui a été une grande Straussienne, disait que, à son avis, si Electra est si furieuse contre Égiste, c'est qu'elle a vu Agamemnon tuer devant elle. Et ça explique en effet bien des choses, si on prend cela comme ça. Donc cette folle furieuse, ce chat écorché, eh bien tout d'un coup, c'est une petite fille toute seule, Alain.
Oh!
Le monologue d'Electra de Richard Strauss, c'était Ingeborg qui chantait et l'orchestre symphonique de Chicago était dirigé par Fritz Reiner. C'était une des grandes Electra du siècle passé que cette Ingeborg, magnifique chanteuse, magnifique chef, magnifique enregistrement. Malheureusement, nous n'avons que des extraits. Alors, dans ce monologue, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, on apprend que son père a été égorgé comme un pourceau, qu'il va falloir sacrifier les chevaux, les chiens, et nous qui sommes ton sang, ton fils Oreste et tes deux filles, nous trois, quand tout sera accompli, nous danserons. C'est exactement le programme de ce qui va se passer ensuite. Alors ce qui se passe ensuite, c'est assez impressionnant de voir l'influence de Wagner. Par exemple, ce rythme valkyrien qu'on vient d'entendre, et évidemment le prologue qu'on a entendu tout à l'heure avec les servantes et la surveillante font évidemment référence comme technique d'écriture vocale au prologue de l'Or du Rhin, où les filles du Rhin s'amusent à faire joujou avec le méchant qui veut voler l'or. On voit la descendance, mais c'est beaucoup plus rapide théâtralement que Wagner, et ça module tout le temps. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit que Richard Strauss était un très grand chef d'orchestre, puisqu'on a à la fois des choses extraordinairement lyriques, ce talent mélodique si extraordinaire, et de temps en temps, des crépitements. Mais c'est toujours tellement bien écrit, même si c'est fatigant de la vie de toutes les dames qui ont chanté Strauss, et en particulier Electra, c'est toujours très bien écrit. Et Strauss, qui ne manquait pas d'humour, disait à un jeune chef d'orchestre en 1925, « Dirige Salomé et Electra comme s'ils étaient de Mendelssohn, de la musique de fée. » Bon, je veux bien. Mais en tout cas, il y a toujours, comme chez tous les grands compositeurs pour la voix, un appui quelque part dans l'orchestre. L'orchestre module, l'orchestre change de densité, et surtout, ce qui est très impressionnant, évidemment, c'est que l'orchestre a toujours un appui à donner à la chanteuse qui est évidemment bien seule. Alors, on a parlé du côté mozartien de cette musique, dans la versatilité, dans le changement aussi rapide qu'il y a toujours dans cette musique. Eh bien, maintenant, on a encore une scène avec des servantes. Et alors là, il est question que de rêves. La vieille reine... Eh bien, elle rêve tout le temps. Elle rêve au meurtre de son mari, elle rêve aux meurtres qui vont arriver. Et c'est une discussion extraordinaire. Et les didascalies d'Hofmannsthal sont magnifiques. Je crois que même si on ne l'a jamais vu, on peut imaginer. Dans la large fenêtre paraît Clytemnestre, la reine. Éclairée par la vive lumière des torches, son visage blêmi et bouffi semble encore plus pâle au-dessus de son vêtement rouge écarlate. Elle s'appuie sur une confidente qui est vêtue de violet sombre et sur une canne d'ivoire ornée de pierres précieuses. Une femme en jaune, les cheveux noirs ramenés en arrière, le visage lisse, ressemblant à une égyptienne, porte sa traîne. Elle a l'air d'un serpent dressé sur sa queue. La reine est littéralement couverte de pierres précieuses et de talismans. Ses bras sont chargés d'anneaux, ses doigts lourds de bagues. Ses paupières semblent démesurément grandes. On dirait qu'elle ne peut les tenir ouvertes qu'au prix d'un effort terrible. Alors je vous demande un effort aussi pour écouter cet enregistrement qui n'est pas très satisfaisant à bien des égards, mais la Clytemnestre est absolument magique, c'est Martha Mödl.
Peace. Oh! wenn auf ein Wort nichts weiter ist. Was ist denn ein Haar? Und doch kriecht zwischen Tag und Nacht, wenn ich mit offenen Augen lieg, ein etwas hin über mich. Es ist kein Wort, es ist kein Schmerz, es drückt mich nicht, es führt mich nicht.
Was wir bräuchten.
scène extraordinaire entre Electre et sa mère, où Electre se conduit comme un inspecteur de police en faisant cracher à la vieille tout ce qu'elle ne veut pas cracher. Et vous avez vu, c'est extraordinaire, cette description d'elle comme d'un corps purulent, malade, qui rêve. Et comme dit Electra, je suis une sorte de médecin. C'est assez curieux parce que ça ressemble à une séance qu'on pourrait imaginer sur quelqu'un qui va très mal avec quelqu'un qui voudrait que l'autre aille encore plus mal. Electra a fait le choix de torturer sa mère jusqu'à lui poser la question « Dis-moi, maman, quand feras-tu rentrer mon frère à la maison ?» Évidemment, la vieille est en furie. Ici, c'était Martin Mödel. Je conviens que Electra, Annie Konietzny et Chrysothémis Danisa Illich ne sont pas formidables, mais j'avais envie de vous faire écouter cette Martin Mödel avec Mitropoulos lors du mai musical florentin de 1950. Alors, Electra, c'est une grande soprano, mais Clytemnestre, c'est en général, ou une mezzo, c'est une mezzo sur la partition, c'est souvent des sopranos en fin de course. La plus grande peut-être fut Astrid Varnaï, mais il y a eu aussi Christa Ludwig et beaucoup d'autres. Donc, à chaque fois dans ces scènes, Richard Strauss nous donne le déroulé de ce qui va arriver avec une versatilité musicale. Vous avez vu, des fois il y a tout l'orchestre, puis des fois il y a juste un violon. C'est tout à fait extraordinaire et je pense que cette versatilité instrumentale vient plutôt que de chez Wagner, où on voit évidemment des traces wagnériennes, mais ça vient plutôt de Mozart qu'il connaissait aussi bien. Alors maintenant, on arrive après une apparition de deux personnages masculins. C'est assez curieux, on ne les voit apparaître qu'au moment où le personnage masculin va devenir central, c'est-à-dire Oreste. C'est assez curieux, il y a un jeune serviteur et un vieux serviteur qui discutent, comme il y a les soubrettes dans les opéras de Mozart, c'est-à-dire on discute qu'est-ce qui va se passer. Et c'est très impressionnant théâtralement cette apparition des voix d'hommes, parce que pendant toute la première partie, on a entendu que les servantes, Chrysothémis et Electra, les deux sœurs, et la mère, Clytemnestre. Et là, avec les voix un peu dans un registre bouffe, les voix des serviteurs, tout d'un coup, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire le frère. Alors, le frère, il ne se fait pas reconnaître tout de suite, et c'est ça qui est très beau, parce qu'il est encore question des chiens. Oreste, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est censé être mort, mais Oreste dit à la fin, quand il est lassé, que Electre ne le reconnaisse pas, il dit « Même mes chiens me reconnaissent ».
Du fremder Mensch, was treibst du dich zur dunklen Stunde hier herum? Belauerst, was andere tun? Ich hab hier ein Geschäft. Was kümmert's dich? Lass mich in Ruh.
Hier aus dem Haus. Bist eine von den Mägden dieses Hauses?
Ja, ich diene hier im Haus. Du aber hast hier nichts zu schaffen.
Noch
wir sind an sie geschickt, weil wir bezeugen können, dass ihr Sohn Ores gestorben ist vor unseren Augen. Denn ihn erschlugen seine eigenen Pferde.
Verwandtes Blut zu denen sein, die starben, Agamemnon und Orest.
Blut! Ich bin das Blut! Ich bin das mündig vergossene Blut des Königs Agamemnon!
Hey, 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 hey.
hieße sie wirklich du. So haben sie nicht darben lassen, oder sie haben dich geschlagen.
Lass mein Kleid, fühl nicht mit deinem Blick daran.
Was haben sie gemacht mit deinen Nächten? Furchtbar sind deine Augen.
Das ist...
Hol sie deine Wangen.
Geh ins Haus, geh ans
des Vaters Leichnam, dazu kann ich hin.
Thank you.
Pardon, Oman de Richard Strauss, mais l'extrait que nous avons sur le disque de Fritz Reiner et du Chicago Symphony Orchestra avec Ingeborg, à nouveau la grande Elektra, et au reste était Paul Scheffler. Et après le Sprechgesang de la scène avec Clytemnestre, ici c'est l'extase, comme dans les grands finales de Richard Strauss, la maréchale, la comtesse, l'impératrice. Mais ici, ce qui est plus fort, c'est que le final, ce n'est pas du tout là, c'est qu'après, vous avez entendu qu'il y a une danse, et là, ça se précipite. C'est pour ça que je pense à Mozart.
Thank you.
La fin d'Electra, ou Chrysothémis, Frances Yand chante Oreste. C'est fini pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Xavier Attaud, François Pron, Michael Fontanillas, Véronique Cardiles et Géraldine Prüttner. Auparavant, nous avons entendu Electra, c'était à nouveau Ingeborg, et son frère Oreste était un des grands Orestes du XXe siècle. Paul Scheffler,